et une couche de TTY. À l'épisode précédent, on a esquivé toute une tranche d'explication, ce qui est purement logiciel. Comment l'application décide-t-elle qu'il faut afficher le A tapé au clavier? Il y a bien sûr de nombreux cas selon les applications. On va prendre ici le cas d'une application textuelle interactive qui gère elle-même son affichage. L'application tourne sur ce qu'on appelle un TTY, Teletype, c'est-à-dire l'association d'une notion de clavier et d'une notion d'écran. Ça tombe bien, c'est ce qui nous occupe. On peut l'observer dans la sortie du programme PS, dans la colonne TTY. On va prendre le cas relativement simple de la console texte Linux, qui comporte classiquement 6 TTY virtuels entre lesquels on peut basculer à l'aide de AltFX. Notre application tourne sur un seul d'entre eux, par exemple TTY 1, que l'on suppose être le TTY actuellement actif. On suppose ici que l'application a fini ses traitements et attend simplement l'entrée de l'utilisateur. IE, elle, est bloquée dans un appel read sur son entrée standard qui se trouve être TTY 1, donc. Reprenons où on en était de l'épisode précédent. Dans le traitant d'interruption, une fois que le noyau a traduit le scan code en K-code, puis en code ASCII, il le met en attente dans le tampon d'entrée du TTY 1, puisqu'étant le TTY actif, et réveille l'application bloquée sur Read, puisque des données sont maintenant disponibles pour lecture. Le traitant a fini son travail. Il termine, et le noyau redonne la main à l'application qui était en cours d'exécution. Pas forcément celle qui nous intéresse, donc. Au bout d'un moment, le noyau décide de consacrer du temps processeur à notre application, puisqu'elle est désormais réveillée. L'appel read retourne alors un caractère, le fameux A. L'application teste ce caractère, se rend compte que c'est une simple lettre, et décide alors de l'afficher. Elle appelle donc write sur sa sortie standard, qui se trouve être TTY 1 aussi. Le noyau écrit alors ce caractère dans le tampon de sortie de TTY 1. Et puisque c'est le TTY actif, répercute l'affichage en l'écrivant dans la mémoire de la carte vidéo. On reboucle ainsi sur l'épisode précédent. Une variante de ce scénario est le mode canonique. Si l'application a la flemme de gérer elle-même l'affichage des lettres tapées au clavier, elle peut utiliser TCSE-TATTR pour activer le drapeau iCanon sur son TTY. Lorsque ce mode est activé dans le traitement d'interruption, plutôt que fournir la lettre à l'application, elle est directement copiée sur le tampon de sortie du TTY et donc répercutée à l'écran. Il n'y a donc pas d'aller-retour avec l'application. Ce n'est que lorsque la touche Entrée est pressée que tout ce qui a été entré dans le tampon d'entrée du TTY 1 depuis la dernière pression de Entrée est retourné d'un seul tenant à l'appel Read. Ce n'est pas le seul changement. Il y a par exemple dans la configuration du TTY le paramètre Erase qui contient en général le caractère correspondant à la touche Backstage, effacement arrière. Lorsque cette touche est pressée au clavier, le noyau enlève alors du tampon d'entrée du TTY le dernier caractère qui s'y trouvait. Ainsi, le mode canonique fait faire au noyau un certain traitement sur les lignes de texte tapées au clavier avant même qu'elles soient retournées à l'application. On peut le remarquer en lançant Strace CAT, de même pour CTRL-U, CTRL-W, CTRL-V. Un dernier détail. Le TTY a également un drapeau ISIG qui indique si les paramètres tels que INTR sont actifs. INTR est typiquement configuré à CTRL-C. Lorsque ce caractère est tapé au clavier, plutôt que le mettre dans le tampon d'entrée du TTY, le noyau, envoie un signal SIGINT à l'application qui tourne sur le TTY, qui bien souvent fait donc terminer l'application. C'est ainsi le comportement bien connu du raccourci CTRL-C, de même pour CTRL anti-slash, SIGQUIT, CTRL-Z, SIGTSTP.